Bonjour Victoria, bonjour à tous les auditeurs francophiles et francophones de CILS FM 107,9. Alexis Gagnon au micro. On lance immédiatement cette édition du débrief pour les mercredis 31 mai et jeudi 1er juin. Je suis avec vous au cours de la prochaine heure pour couvrir la revue des actualités internationales, nationales et provinciales. Et nous avons le plaisir aujourd'hui, en fin d'émission, de nous entretenir avec l'astrophysicien Jacques Vallée, un pionnier de CILS FM que plusieurs auditeurs connaissent bien. Monsieur Vallée reviendra sur les récentes déclarations du physicien et cosmologiste Stephen Hawking sur l'avenir de l'humanité. Restez à l'écoute, ce sera en fin d'émission. Merci d'écouter l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. Voici votre revue de presse internationale pour les 31 mai et 1er juin. On débute dans les colonnes de Mediapart à l'adresse mediapart.fr. Un attentat fait plus de 90 morts à Kaboul en Afghanistan. L'explosion d'un camion piégé mercredi 31 mai en plein cœur de Kaboul a fait plus de 90 morts et 460 blessés. Si personne n'a encore revendiqué cet attentat, les talibans ont gagné du terrain ces dernières années et l'État islamique est désormais présent dans l'est de l'Afghanistan. C'est un papier signé par Thomas Cantaloub. Et la nouvelle, par ailleurs, est rapportée par de nombreux médias à l'échelle planétaire. Dans une ville qui en a pourtant connu beaucoup, l'explosion d'un camion piégé mercredi 31 mai en plein cœur de Kaboul est venue rappeler combien l'Afghanistan vivait toujours au bord d'un volcan. Avec un bilan encore provisoire et qui va certainement grossir de plus de 90 morts et 460 blessés, cet attentat figure parmi les plus importants à avoir frappé la capitale afghane, mais il s'inscrit malheureusement dans une longue lignée d'attaques similaires. Selon le chef de la police de Kaboul, le général Hassan Shah Frog, les explosifs étaient dissimulés à bord d'un camion de vidange des égouts que le chauffeur a déclenché vers 8h30 du matin au moment où les habitants se rendent au travail. L'attentat a eu lieu sur une petite place du quartier de Wazir Abkar Khan qui abrite de nombreux bâtiments gouvernementaux et des ambassades, dont celle d'Allemagne qui a été en partie détruite par l'explosion. La force du souffle a brisé des vitres jusqu'à 1,5 km de distance et pendant de nombreuses minutes, les Kaboulien ont pu voir un immense panache de fumée s'élever dans les airs. Le cratère creusé par la bombe fait plus de 4 mètres de profondeur, précise Mediapart. Moyen-Orient toujours, la Russie a tiré des missiles de croisière contre l'EI à Palmyre. Un navire de guerre et un sous-marin russe déployé en mer Méditerranée ont tiré 4 missiles de croisière contre des positions du groupe État islamique, l'EI, près de Palmyre en Syrie, a annoncé mercredi le ministère de la Défense russe. L'armée russe avait prévenu au préalable les États-Unis, la Turquie et Israël de ces tirs, les premiers du genre depuis le mois de novembre, a-t-il été précisé. Les missiles ont été tirés à partir de la frégate Amiral SN et du sous-marin Ksanodar et visaient des commandants et du matériel de l'État islamique dans une région située à l'est de Palmyre, a détaillé le ministère russe. Ces cibles, auparavant déployées près de Raqqa, la capitale de facto du groupe djihadiste État islamique en Syrie, ont été détruites selon le même ministère russe de la Défense. L'ONU appelle au compromis pour épargner le port d'Hodeïda. C'est dans le fil de l'agence Reuters. Les Nations Unies ont mis en garde mardi l'alliance conduite par l'Arabie Saoudite face aux insurgés Houthis au Yémen contre toute offensive sur Hodeïda, port névralgique en mer Rouge par lequel arrivent près de 80% des importations de nourriture du pays en pleine crise alimentaire. Un quart de la population du Yémen est au bord de la famine, rapporte cet article de Reuters. Les familles tentent de marier leurs plus jeunes filles pour assurer leur subsistance et les cas de choléra s'accumulent, a déclaré mardi un responsable de l'ONU. Une attaque sur Hodeïda n'est pas dans l'intérêt d'aucune partie car elle conduirait directement et irrévocablement la population yéménite à une famine plus avancée, a dit au Conseil de sécurité le coordinateur des secours d'urgence des Nations Unies, Stephen O'Brien. Stephen O'Brien a appelé en outre tous les États membres de l'ONU à garder le port ouvert et opérationnel. Avec 17 millions de personnes dont la sécurité alimentaire est menacée et 6,8 millions de Yéménites à un pas de la famine, selon l'expression de l'ONU, la crise n'est pas en train de venir, elle n'est même pas imminente, elle est là aujourd'hui, a ajouté Stephen O'Brien. Et ces propos sont rapportés par Reuters, je le disais, et je rappelle le titre, l'ONU appelle au compromis pour épargner le port d'Hodeïda. Et rappelons que l'Arabie saoudite mène cette guerre contre le Yémen en contravention quasi permanente avec le droit international et les règles de la guerre. On reste dans le fil de Reuters. Donald Trump s'apprêterait à se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Le président Donald Trump a décidé de soustraire les États-Unis de l'accord sur le climat signé à Paris en décembre 2015, a-t-on appris mercredi à Washington de sources autorisées. S'il se confirmait, ce retrait, d'abord rapporté par le site d'information américain Axios, s'inscrirait en droite ligne des propos tenus par le milliardaire républicain durant la campagne présidentielle de l'an dernier. Donald Trump a simplement fait savoir mercredi dit sur Twitter qu'il ferait connaître sa décision dans les prochains jours. Cet accord sur le réchauffement climatique parrainé par les Nations Unies est entré en vigueur le 4 novembre 2016 après sa ratification par au moins 55 pays comptant plus de 55% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. À Bruxelles, la Commission européenne a estimé qu'un retrait des États-Unis serait regrettable tout en soulignant que l'Union européenne était disposée à adopter une position en pointe sur ce dossier en collaboration avec ses partenaires en Afrique et en Asie. Et cet article rappelle que Donald Trump avait affirmé durant la campagne présidentielle de l'automne 2016 que le concept de réchauffement climatique avait été inventé par les Chinois pour empêcher l'industrie américaine d'être compétitive. Le milliardaire républicain avait donc promis de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris avant de dire qu'il n'excluait pas d'y rester si de meilleures conditions étaient accordées aux Américains. Un rapport d'Amnesty International accable la France. C'est dans tous les médias français. Je vous rapporte cet article paraissant dans Bastamag à l'adresse bastamag.net. En France, la liberté de manifester gravement menacée par l'état d'urgence. Le droit de manifester est en danger en France selon l'une des plus grandes organisations de défense des droits humains dans le monde, Amnesty International, qui rassemble 7 millions de membres. Telle est la conclusion de l'enquête que l'organisation a menée pendant un an alors que la France confrontée à des attentats sanglants, vit sous l'état d'urgence. Mais cet état d'urgence et les pouvoirs arbitraires qu'il confère n'a pas seulement été utilisé pour protéger les citoyens contre le terrorisme. Interdiction de manifester, assignation à résidence, usage excessif de la force, intimidation de médias, l'état d'urgence a également été appliqué dans plusieurs cas contre les citoyens et leur liberté de s'exprimer, en particulier pendant le mouvement contre la loi travail sous le premier ministre Manuel Valls et le président François Hollande. Alerte, le droit de manifester est en danger, c'est le résumé que l'on peut tirer du rapport d'Amnesty International publié le mercredi 31 mai. Issu d'une enquête de 12 mois, ce rapport s'alarme des restrictions à la liberté de réunion et de manifestation pacifique en France du fait de l'état d'urgence. Des syndicalistes, des manifestants et des journalistes ont été interrogés par Amnesty International, mais le syndicat de la police, Alliance, a refusé la demande d'entretien soumise par Amnesty International. Instauré le 15 novembre 2015, après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés, rappelle cet article, l'état d'urgence a déjà été renouvelé à 5 reprises. Mis en place pour éviter que de nouveaux attentats soient perpétrés, l'état d'urgence donne aux préfets des pouvoirs qu'ils semblent exercer à d'autres fins, notamment pour assurer le maintien de l'ordre. Donc vous trouverez cet article dans le portail Bastamag. En France, la liberté de manifester gravement menacée par l'état d'urgence. Et cette nouvelle est rapportée également dans d'autres médias, je le disais. Je vous cite la manchette du Nouvel Observateur. État d'urgence, le droit de manifester est de plus en plus perçu comme une menace en France. Ça, c'est dans le Nouvel Observateur si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre lecture. Retour aux États-Unis, retour dans les colonnes de Mediapart. Flint, une ville plombée par son manque d'eau potable. La ville de Flint, dans le Michigan, est toujours en état d'urgence, écrit la journaliste Natasha Peteuil. Les habitants n'ont pas accès à l'eau potable car depuis 3 ans, l'eau est empoisonnée par du plomb. Le quotidien est rythmé par les passages au centre de distribution d'eau mis en place par la ville et les églises. Depuis janvier 2016, la ville de Flint n'a guère changé. Pourtant, après une déclaration d'état d'urgence municipale, régionale puis fédérale, les habitants pensaient être enfin sortis d'affaire. La première chose que je tiens à dire, c'est que nous sommes toujours avec nos bouteilles d'eau et nos filtres, s'agace Karen Weaver, la maire de Flint. Un an et demi auparavant, elle a été élue première édile grâce à son militantisme et son indignation face à l'empoisonnement au plomb que sa famille et elle ont subi. Comme 100 000 autres résidents de cette ville, petit à petit, l'indignation laisse place à la colère. Cela fait 3 ans trois ans, souligne-t-elle dans cet entretien accordé à Mediapart. Il faut remonter à avril 2013 pour comprendre la situation dans laquelle les habitants de Flint se trouvent actuellement, écrit la journaliste. Car en 2013, Flint, comme la ville de Détroit, est en récession depuis plusieurs décennies. La crise financière de 2008 donne un coup à ces deux cités, symboles de l'industrie automobile américaine. Flint se voit alors placé sous les décisions arbitraires d'un administrateur d'urgence nommé par le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, dont la mission principale est de redresser les finances. Après avoir augmenté les impôts et réduit le nombre de personnels administratifs, l'administrateur s'attaque au prix de l'eau. Avant 2014, Flint achetait son eau à Détroit, qui se fournit dans le lac Huron. Détroit faisant face à ses propres problèmes, la ville doit augmenter le prix de l'eau. L'administrateur de Flint décide donc de ne plus recourir aux services de Détroit et encourage la construction de son propre système d'acheminement. Le conseil municipal décide donc qu'entre-temps, la ville pourrait utiliser l'eau déjà sur place, à savoir la rivière de Flint. Mais dans ce bassin industriel, la pollution fait partie intégrante du paysage, rapporte Mediapart. Plusieurs usines installées près de la rivière n'ont pas hésité à se servir de l'eau comme d'une chasse d'eau pour leurs déchets entre la fin des années 1930 et le début des années 1970. Peu réjouis à l'idée de boire de l'eau de cette rivière, les habitants font confiance à l'État qui promet que l'eau sera traitée et par conséquent potable. Alors le récit des événements se poursuit. Évidemment, les habitants de Flint ont été très déçus par leurs élus des différents ordres de gouvernement. Et la journaliste remonte le fil des événements. C'est fascinant. Vous trouverez ça dans le portail Mediapart. Flint, une ville plombée par son manque d'eau potable. Dans le journal Le Monde à présent, et toujours en Amérique du Sud, des universitaires et des intellectuels des Amériques et d'Europe ont lancé un appel international urgent pour stopper la montée de la violence au Venezuela, diffusé sur les réseaux sociaux et plusieurs autres sites. La violence politique et sociale a déjà entraîné plus de 50 morts, des centaines de blessés et des détenus renvoyés devant les tribunaux militaires, déplorent les auteurs de cet appel. Le conflit vénézuélien a lieu dans un contexte de polarisation politique de plus en plus virulente et de désintégration du tissu social, indiquent les auteurs. Cela dit, le principal responsable de la situation au Venezuela, en tant que garant des droits fondamentaux, est l'État, qui se trouve entre les mains des autorités gouvernementales actuelles. Alors vous trouverez cet appel lancé au gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela dans les pages du journal Le Monde. C'est signé par plusieurs intellectuels de gauche et c'est en date du mercredi 31 mai. On reste dans les pages du Monde. Facebook gagne en justice face aux parents d'une adolescente décédée en Allemagne. La justice allemande a refusé de contraindre Facebook à donner aux parents l'accès au contenu publié par leur fille défunte. Ils voulaient éclaircir les circonstances de sa mort. La justice allemande a refusé mercredi 31 mai de contraindre Facebook à donner aux parents d'une adolescente décédée l'accès au contenu publié par leur fille. Ces derniers voulaient éclaircir les circonstances de sa mort en récupérant les contenus postés par l'adolescente sur Facebook avant son décès en 2012. La cour d'appel de Berlin a infirmé la décision rendue en première instance en 2015 contre laquelle le réseau social avait fait appel en invoquant le respect de la vie privée des interlocuteurs de la défunte. Âgée de 15 ans, elle avait été percutée par une rame de métro à Berlin. En ayant accès à ses posts ou son historique de chat, ses parents espéraient comprendre les circonstances de sa mort, accident ou suicide, en trouvant par exemple des écrits suggérant qu'elle a pu mettre fin à ses jours. Le couple invoquait le fait que les contenus figurant sur le compte Facebook de leur fille étaient juridiquement identiques à des journaux intimes ou des lettres qui peuvent revenir aux proches après un décès, à l'image d'un héritage. Dans sa décision rendue mercredi, la juridiction berlinoise a rejoint l'argumentation du géant américain Facebook sur le respect de la vie privée, la Cour rappelant ainsi que le secret des télécommunications est garanti par la loi fondamentale allemande et s'applique également au contenu des comptes Facebook. C'est ici que se complète la revue de presse internationale des 31 mai et 1er juin. Demeurez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief va se poursuivre dans quelques instants avec la revue de presse canadienne. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien, édition des mercredis 31 mai et jeudi 1er juin. Nous allons passer à présent aux nouvelles canadiennes. Voici tout de suite votre revue de presse nationale. Et on ouvre avec un article paraissant dans le fil de l'agence QMI. Nouvelle-Écosse, les libéraux obtiennent difficilement un second gouvernement majoritaire. Le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse a été réélu à la tête d'un gouvernement majoritaire mardi soir pour un second mandat consécutif à la tête de la province. Il s'agit de la première fois en 29 ans qu'un parti parvient à obtenir un second gouvernement majoritaire de suite en Nouvelle-Écosse, précise cet article. Les libéraux ont toutefois peiné à obtenir cette victoire, eux qui ont obtenu 27 sièges, soit seulement un de plus que les 26 nécessaires pour former un gouvernement majoritaire. Les conservateurs ont remporté la victoire dans 17 circonscriptions contre 7 qui sont allées aux néo-démocrates. Démocrates. À la dissolution de la Chambre en Nouvelle-Écosse, le mois dernier, on comptait 34 libéraux, 10 conservateurs, 5 néo-démocrates, un député indépendant et un siège était vacant. Les libéraux ont aussi perdu des plumes au scrutin général, obtenant 39,5% des voix contre 45,7% en 2013. Les conservateurs ont, de leur côté, fait un bond de géant en obtenant la faveur de 35,7% des néo-écossais contre 26,3% en 2013. Dans son discours de victoire, le premier ministre réélu Stephen McNeill a promis de s'attaquer à la problématique de l'accès aux soins de santé dans la province de Nouvelle-Écosse. C'était l'un des principaux enjeux de sa campagne électorale. Toujours à propos de ces élections en Nouvelle-Écosse, cette fois dans le portail de Radio-Canada, édition Nouvelle-Écosse, l'ex-ministre acadien Michel Samson défait par une poignée de voix seulement en Nouvelle-Écosse. Michel Samson, ministre sortant des Affaires acadiennes en Nouvelle-Écosse, a été défait par quelques voix à peine lors des élections provinciales de mardi. Son adversaire progressiste conservatrice Alana Pan a remporté la circonscription de Cap-Breton-Richmond avec une majorité de 20 voix seulement. Selon les résultats préliminaires diffusés par Élections Nouvelle-Écosse, 3336 personnes ont voté pour elle, tandis que 3316 autres électeurs ont voté pour Michel Samson. Le libéral représentait la région à l'Assemblée législative depuis 1998. Il n'avait que 25 ans la première fois qu'il a été élu. Il détenait à ce moment le record de jeunesse chez les députés. La conservatrice qui a remporté cette circonscription a travaillé dans les domaines de la jeunesse, de l'entrepreneuriat et du développement économique. De plus, elle est propriétaire d'un élevage de moutons, précise cet article. Donc, défaite du ministre acadien Michel Samson, qui avait le portefeuille des affaires acadiennes en Nouvelle-Écosse. On se transporte dans les pages du journal Le Devoir. La correspondante parlementaire du Devoir, Hélène Buzetti, signe un article intitulé « L'oléoduc Trans Mountain survivra à l'élection en Colombie-Britannique, selon Ottawa ». Le renversement prochain de la libérale Christy Clark en Colombie-Britannique n'inquiète pas Ottawa, écrit Hélène Buzetti. L'avènement d'un gouvernement néo-démocrate appuyé par les Verts, aussi opposé soit-il à l'oléoduc Trans Mountain de Kinder Morgan, ne pourra pas y faire barrage, assure le gouvernement de Justin Trudeau. Il s'agit d'un pipeline qui a été approuvé par le gouvernement fédéral, a rappelé le ministre des Ressources naturelles, Jim Carr. L'approbation est là pour l'ancien gouvernement, le gouvernement actuel et pour tout futur gouvernement, a-t-il martelé. Le premier ministre Justin Trudeau, en visite en Italie, a indiqué qu'il ne changeait pas d'avis. Alors, on avait signalé cette déclaration de Justin Trudeau. On a maintenant celle du ministre des Ressources naturelles, Jim Carr. C'est dans le journal Le Devoir, sous la plume d'Hélène Buzetti, l'oléoduc Trans Mountain survivra à l'élection, selon Ottawa. Retour dans le portail de Radio-Canada, une immigrante illégale est morte en tentant d'entrer au Canada. Le bureau du shérif du comté de Kitson, dans l'état du Minnesota, aux États-Unis, confirme qu'une femme de 57 ans, possiblement ghanéenne, est morte d'hypothermie pendant son périple pour traverser illégalement la frontière canado-américaine. Mavis Otutai a été vue pour la dernière fois de son vivant le 22 mai dans le comté de Kitson. Elle était officiellement portée disparue depuis le 25 mai. Le corps de l'immigrante a été retrouvé vendredi à l'ouest de l'autoroute I-29 et à seulement 800 mètres du poste frontalier de la ville canadienne d'Emerson, qui est devenu l'un des postes frontaliers les plus fréquentés par les réfugiés au Canada. Une autopsie préliminaire révèle que la mort de la femme serait attribuable à une hypothermie, mais une autopsie finale doit confirmer cette constatation. Dans les pages du quotidien La Presse maintenant, note biographique de Justin Trudeau, 5 fautes de français en seulement 560 mots. C'est un article signé par Vincent Brousseau-Pouliot. Depuis le début du mandat du premier ministre canadien Justin Trudeau à l'automne 2015, ses notes biographiques officielles comportent 5 fautes de français. Le document du gouvernement fédéral n'est pas à la hauteur et comporte des lacunes linguistiques, selon les deux experts en français consultés par le journal La Presse. Le cabinet du premier ministre Trudeau convient qu'il est inacceptable de retrouver des fautes de français dans les notes biographiques du premier ministre qui sont préparées par le gouvernement fédéral et peuvent notamment être consultées sur le site web officiel du premier ministre. À la suite des questions posées par le journal La Presse en début de semaine, les fautes ont été corrigées dans une nouvelle version mise en ligne. Dans la première version du document, écrit le journaliste Vincent Brousseau-Pouliot, se trouvaient 5 fautes de français. Donc, ces fautes ont été relevées par Marie-Ève de Villiers, auteure du multidictionnaire de la langue française et chercheuse agrégée au HEC Montréal, ainsi que Pascal Lefrançois, professeur de didactique du français à l'Université de Montréal. Marie-Ève de Villiers estime que le niveau de français des notes biographiques du premier ministre Trudeau, qui compte 560 mots, n'est pas à la hauteur, considérant l'importance de ce document. Ce n'est pas de niveau, on s'attend à plus pour des notes biographiques d'un premier ministre. Au fond, ça sent la traduction, c'est calqué sur l'anglais. Et de son côté, Pascal Lefrançois déclare qu'il y a, de façon générale, des lacunes linguistiques. On a l'impression, dit-elle, que c'est un texte traduit avec des erreurs de traduction. Il faut reformuler le texte en respectant les règles de la langue française. Traduire n'est pas une excuse pour se mettre à commettre des erreurs en français. Donc voilà, ce serait amusant si ce n'était pas aussi en même temps plutôt inquiétant de la part du premier ministre et de son cabinet. Vous trouverez l'article dans le journal La Presse, donc sur le portail de La Presse, lapresse.ca. Note biographique de Justin Trudeau, 5 fautes de français en seulement 560 mots. Nouvelle économique à présent, les dépenses des ménages dopent la croissance trimestrielle du pays. La croissance économique du Canada s'est fortement accélérée au premier trimestre de l'année 2017, soutenue par la consommation des ménages, le secteur de la construction et la reprise des investissements des entreprises, montrent des chiffres publiés mercredi par Statistique Canada. Le produit intérieur brut, le PIB, a cru de 3,7% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de 2017, un chiffre légèrement inférieur aux estimations des analystes qui tablait sur 3,9%. Après s'être affiché en baisse au cours des 4 derniers trimestres sur 5, les investissements des entreprises, notamment dans les machines et les équipements, ont repris, contribuant à la bonne performance du premier trimestre au Canada, poursuit cet article de Reuters. Au Québec maintenant, le premier ministre Philippe Couillard défend ses liens avec l'ex-organisateur libéral Marc-Yvan Côté. C'est dans le fil de La Presse canadienne par le journaliste Patrice Bergeron. Le premier ministre Philippe Couillard a dit mercredi avoir tendu la main d'un être humain à un autre être humain quand il a invité à sa maison Marc-Yvan Côté, cet ancien ministre et organisateur politique du Parti libéral accusé de fraude. Selon un échange de courriel datant de 2012 obtenu par Québecor, Philippe Couillard a invité à sa maison, Marc-Yvan Côté, qui venait alors d'être éclaboussé par un reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada. Et cet article rappelle que Marc-Yvan Côté est banni du Parti libéral du Canada, la formation politique sœur du Parti libéral du Québec. Donc je rappelle le titre, Philippe Couillard défend ses liens avec l'ex-organisateur libéral Marc-Yvan Côté. C'est dans le fil de La Presse canadienne. Retour dans le portail de Radio-Canada, des sociétés liées à KPMG ordonnent la destruction de documents. Et c'est une exclusivité des journalistes Gaétan Pouliot et Harvey Kasher. Dans le portail de Radio-Canada, le gouvernement canadien a ordonné à KPMG de conserver tous les documents reliés à une enquête sur son stratagème à l'île de Man. L'île de Man, évidemment, c'est un paradis fiscal, rappelons-le. Peu de temps après, un groupe de sociétés créé par le cabinet comptable dans ce paradis fiscal demandait de tout détruire, ont appris Enquête et CBC. Enquête, c'est une émission phare d'investigation à l'antenne de Radio-Canada. Donc, une enquête qui a été menée conjointement par les services français et anglais de Radio-Canada sur les agissements de KPMG. KPMG qui a facilité l'évasion fiscale de ses clients richissimes. C'est une affaire qui dure depuis longtemps et qui éclabousse quelque peu le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, vous aurez les dernières nouvelles dans cet article intitulé « Des sociétés liées à KPMG ordonnent la destruction de documents ». Et on va finir avec une nouvelle plus légère, un peu insolite si vous voulez. Production record de sirop d'érable au Québec. C'est dans le fil de la presse canadienne. Les 13 700 producteurs québécois ont réussi à récolter 152,2 millions de livres de sirop au printemps. L'an dernier, les acériculteurs avaient récolté 148 millions de livres de sirop d'érable, ce qui avait battu le record de 120 millions de livres atteint en 2013. La saison des sucres, comme on l'appelle, a connu un départ très hâtif cette année, en février. Un départ qui a été suivi de plusieurs semaines de froid et d'attente, puis d'un redoux vers la fin du mois de mars. Dans les régions plus à l'est du Québec, la température idéale pour la coulée des érables s'est poursuivie jusqu'au début du mois de mai. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec a souligné que la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, avait connu le meilleur rendement à l'entaille cette année avec 3,89 livres de sirop d'érable. Le président de la Fédération, Serge Beaulieu, a fait valoir que les producteurs du Québec étaient de mieux en mieux formés et qu'ils pouvaient compter sur des avancées technologiques leur permettant d'obtenir un rendement maximum. Et c'est avec cette actualité qu'on va refermer la revue de presse nationale pour les 31 mai et 1er juin. L'émission Le Débrief vous revient dans quelques instants avec la rubrique francophone du jour. Restez à l'écoute. Après les revues de presse internationales et nationales, voici votre rubrique francophonie pour les 31 mai et 1er juin. Et cette rubrique, justement, revient sur un sujet qu'on a abordé un petit peu plus tôt dans l'émission, l'élection en Nouvelle-Écosse. Et c'est tiré du portail de TFO, la chaîne publique francophone de l'Ontario, la francophonie invisible dans la campagne néo-écossaise. Les néo-écossais étaient appelés aux urnes mardi 30 mai, écrit le journaliste Benjamin Vachet. Les thèmes de l'économie, de la santé et de l'éducation ont dominé une campagne morne durant laquelle les enjeux francophones ont été absents de la place publique. Les enjeux des Acadiens n'ont pas du tout été abordés durant la campagne, ce qui est extrêmement inquiétant, a lancé la directrice générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, la FANE, Marie-Claude Rioux. L'organisme porte-parole des 34 585 francophones de la Nouvelle-Écosse espérait que la campagne électorale serait l'occasion d'entendre les différents partis politiques sur la question des circonscriptions acadiennes protégées ou de les voir se positionner sur la révision souhaitée de la loi sur les services en français. Ça a été un silence radio, ce qui est forcément décevant, a déclaré Marie-Claude Rioux. Les partis politiques ne devraient pas négliger les Acadiens car ils sont proportionnellement plus nombreux à voter. La FANE avait pourtant soumis un questionnaire à chaque parti et organisé un débat électoral le 17 mai dernier. Si tous les partis politiques ont répondu au questionnaire et que les candidats Lisa Roberts pour le Nouveau Parti démocratique, Michel Sanson pour le Parti libéral et Chris D'Entremont pour le Parti progressiste conservateur étaient présents pour ce débat, aucune proposition nouvelle n'est vraiment ressortie. Il a juste été question de mettre en place un comité de députation acadienne, une idée que nous avions déjà lancée il y a plus de 3 ans, a déclaré Marie-Claude Rioux dans cet entretien accordé à TFO. Selon le professeur de sciences politiques à l'Université Saint-François-Xavier, Yvon Grenier, la raison est avant tout électoraliste. Les partis politiques ont marché sur des œufs sur la question des circonscriptions. Les libéraux l'ont repoussé aux calendes grecques. Ça s'explique peut-être par le fait qu'il y a peu à gagner électoralement. La FANE dit donc se préparer à travailler avec tous les partis politiques, peu importe le résultat et sans savoir quel parti serait le plus favorable à l'avancée de ces dossiers. Le plus important, a déclaré Marie-Claude Rioux, c'est de garder les voies de communication ouvertes avec les 3 partis politiques. Les Acadiens auront à l'œil les 3 circonscriptions nées de la disparition des circonscriptions acadiennes protégées, soit Cap-Breton-Richmond, Argyle-Barrington et Clare-Digby, précise le journaliste Benjamin Vachet dans cet article. Et selon le professeur Yvon Grenier, ces circonscriptions nouvelles ne devraient pas connaître de grands changements, ce qui garantirait le maintien des 2 Acadiens, le libéral Michel Sanson et le progressiste conservateur Chris D'Entremont à l'Assemblée législative. Alors cet article a été écrit juste avant l'élection. On sait maintenant que Michel Sanson a été défait dans sa circonscription. C'était un ministre libéral en charge des affaires acadiennes. Il a subi la défaite dans son comté. Néanmoins, cet article est fort intéressant. Je vous recommande d'en faire la lecture. La francophonie invisible dans la campagne néo-écossaise. C'est un article signé par Benjamin Vachet dans le portail de TFO, tfo.org. C'était votre information à thématique francophone dans cette édition du 31 mai et du 1er juin du débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale.
Vous le savez comme j'aime la route, j'ai voulu en voir le bout, les fesses tassées dans la minivan de Montréal à Natashquan.
La 138, la 138, la 138, la 138. Sorti de l'île de Montréal, voir du pays, voir du rural. Lâcher le Wi-Fi, le cellulaire, aux yeux, aux vraies affaires. Les urbains chiolent sur la Nodière, les Laurentides, c'est pas de la petite bière. À Repentigny, il y a du monde génial, puis la meilleure poutine qu'à Montréal.
La 138, la 138, la 138, la 138.
La Batiscan, puis les bains de minuit, le parc élève au bord de l'eau,
comme les petits poissons des chenaux.
Québec, c'est une ville chaleureuse, la 138, c'est les bars de danseuses. Ensuite, pour se confesser,
j'aurais tant de beaux prix pour dégriser.
La 138, la 138, la 138, la 138.
Les Sainte-Catherine, le traversier, on y a perdu la journée. On se sentait plus trop d'attaque.
Exploiter les dunes de Tadoussac.
Ses bras, la Chicouté, la Taïga, Jack Monola et Gilles Vigneault nous mentent.
Y'a pas de boulot sur la rivière Mégan.
La 138, la 138, la 138, la 138.
Natashquan, les chouris, c'était notre meilleur show à vie. On en est revenu grandir,
amoureux de notre pays.
Vous savez comme on aime la route, on a voulu en voir le bout, les fesses tassées dans la minivan de Montréal. La Natashquan,
la 138, la 138, la 138, la 138.
Nous écoutions à l'instant Charles Perkins et la formation 3e Avenue, une pièce intitulée La 138. On va maintenant ouvrir la revue de presse britanno-colombienne. Évidemment, la revue de presse continue d'être dominée par les suites de cette élection en Colombie-Britannique. Alors, on commence avec un article paraissant dans le portail de Radio-Canada International, rcinet.ca. La première ministre britanno-colombienne Christy Clark tente de rester en poste. En Colombie-Britannique, la première ministre libérale sortante Christy Clark tentera de rester en poste. C'est ce qu'elle a annoncé mardi lors d'une courte conférence de presse. Le Parti libéral de Christy Clark rappelle cet article n'a pas réussi à faire élire le nombre de députés requis, 44, pour former un gouvernement majoritaire en Colombie-Britannique. Néanmoins, avec 43 sièges, Christy Clark est à la tête du parti qui a obtenu le plus de sièges dans la province. Les néo-démocrates, rappellent l'article, en comptent 41 et les Verts comptent 3 sièges. Malgré l'alliance formée entre le parti néo-démocrate de John Horgan et le parti vert d'Andrew Weaver, la chef libérale Christy Clark ne compte pas abandonner son poste sans se battre. Elle a l'intention, indique cet article, de s'en remettre à l'Assemblée législative qui va bientôt siéger. Si la première ministre devait échouer à obtenir un vote de confiance, elle est prête à assumer son rôle de chef de l'opposition, a-t-elle déclaré. Christy Clark a aussi affirmé qu'elle ne forcera pas la tenue de nouvelles élections. Alors, ça n'est vraiment pas gagné pour Christy Clark. Son pari va probablement échouer. On a un article dans le portail anglophone de Taï à ce sujet. Christy Clark to recall legislature expects to be defeated. Donc, Christy Clark va rappeler l'Assemblée législative de Colombie-Britannique et s'attend à être défaite lors du vote de confiance. C'est sous la plume de Jeremy Nuttall et c'est dans le Taï. On poursuit donc suite aux développements récents. Et suite à cette alliance qu'ont noué le NPD et le Parti vert de Colombie-Britannique, on a un article dans le fil de la presse canadienne intitulé « Colombie-Britannique, des détails de l'entente NPD-Parti vert ont été dévoilés ». La Colombie-Britannique organiserait un référendum l'année prochaine sur la représentation proportionnelle dans le cadre de l'entente qui doit mener à la formation d'un gouvernement provincial minoritaire néo-démocrate soutenu par le Parti vert. Les deux formations ont aussi convenu d'interdire les dons des entreprises et des syndicats aux partis politiques, de même que les contributions de gens ne résidant pas en Colombie-Britannique. Le chef du Parti vert, Andrew Weaver, et le chef du nouveau Parti démocratique, NPD, John Horgan, ont tenu un point de presse mardi pour livrer les détails de cette entente de collaboration. Retour sur le portail de Radio-Canada, des réactions d'appui à l'alliance NPD-Vert. Les uns après les autres, les défenseurs de l'environnement ont applaudi la décision du nouveau Parti démocratique et du Parti vert de s'allier pour former un gouvernement minoritaire néo-démocrate en Colombie-Britannique, écrit la journaliste Noémie Mukanda dans le portail de Radio-Canada. La chef du Parti vert du Canada et députée de Saanich Gulf Islands, Elizabeth May, a adressé ses félicitations directement à Andrew Weaver et à son équipe, dont elle salue la ténacité et les efforts de ces dernières semaines pour en arriver à cette alliance. Elizabeth May estime qu'ils ont démontré ce que les Verts savent faire de mieux, collaborer dans l'intérêt des gens. La journaliste dans cet article interroge d'autres militants environnementaux et organismes. Vous trouverez cet article dans le portail de Radio-Canada, des réactions d'appui à l'alliance NPD-Vert. Et pour conclure cette revue de presse provinciale, un article qui paraît dans le portail indépendant de Taï, c'est sur les retombées économiques de Kinder Morgan et de son pipeline Trans Mountain. C'est un article qui, justement, indique que l'expansion du pipeline Trans Mountain n'apportera pas d'emplois, contrairement à ce que soutient l'entreprise. Les emplois créés par ces travaux d'expansion du pipeline seront vraiment dérisoires, négligeables, et c'est bien étayé, donc, sous la plume d'Andrew Nikoforuk dans le portail de Taï, un article que je vous recommande si vous passez du côté de ce journal indépendant britanno-colombien. Et c'est avec cette actualité qu'on va compléter aujourd'hui le tour d'horizon des nouvelles provinciales. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause. Au retour, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jacques Vallée, l'astrophysicien et pionnier de CILS FM 107,9, bien connu des auditeurs, que l'on a croisé et que vous avez peut-être croisé au Festival de la Francophonie en fin de semaine. Monsieur Vallée, donc, va revenir sur de récentes déclarations du physicien Stephen Hawking sur l'avenir de l'humanité. Restez à l'écoute, c'est dans quelques instants. Vous êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 dans l'émission Le Débrief. C'est le moment de l'interview du jour. J'ai le plaisir de joindre au bout du fil Jacques Vallée. Bonjour, Monsieur Vallée.
Bonjour, Alexis.
Alors, Monsieur Vallée, vous êtes l'un des pionniers de CILS FM qui fête cette année ses 10 ans. On s'est croisés sur le site du Festival de la Francophonie en fin de semaine et vous aviez quelques sujets dont vous souhaitiez faire part aux auditeurs. Le premier d'entre eux, c'était une récente déclaration de Stephen Hawking.
Oui, en fait, je voudrais préciser que Stephen Hawking a fait deux récentes déclarations, un au mois de novembre 2016 et un au mois de mai 2017. Et ils sont un peu contradictoires.
D'accord, on va voir ça. Et je mentionne aussi à nos auditeurs, bien sûr, pour ceux qui ne sauraient pas encore, que vous êtes astrophysicien.
Oui, alors donc, je m'intéresse aux étoiles, je m'intéresse à notre galaxie, je m'intéresse aux planètes, et je m'intéresse à la cosmologie, voilà. Mm. Et Stephen Hawking lui-même est un cosmologue, donc un astronome spécialisé en cosmologie. Il a beaucoup travaillé sur la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein.
Oui.
Et il a essayé de mettre ça avec nos connaissances en cosmologie dans les fins fonds de l'univers. Et il a travaillé beaucoup sur les trous noirs qui en résultent. Et maintenant, il essaie de travailler, d'incorporer la théorie quantique avec la théorie cosmologique et la théorie de la relativité d'Einstein, ce qui est un peu difficile.
Oui.
Alors, en novembre 2016, il avait lancé l'idée qui a été propagée à travers le monde qu'il y aurait possiblement des catastrophes qui viennent frapper la Terre. Maintenant, ça, c'est un théoricien qui parle et non pas un observateur. Le théoricien dit, ben, tu sais, il y a des étoiles qui explosent, on appelle ça des supernovas, puis s'il y a une qui est proche de nous, ben, elle va nous griller parce que c'est très, très chaud, hein?
Oui.
La vie sur Terre va brûler. Bon. L'autre affaire, c'est qu'on sait que de temps en temps, il y a des astéroïdes, et ces machins-là, il y en a qui sont frappés la Terre, mais il y a bien longtemps, où la Lune, tu as juste à regarder la Lune, c'est plein de pocs, hein? C'est plein de cratères. Alors donc, la plupart, ce sont des astéroïdes qui sont allés frapper là.
Mais qu'est-ce qui l'inquiète le plus? Qu'est-ce qui l'inquiète le plus, les supernovas ou les astéroïdes?
Ben, c'était notre question. Il avait donné une longue liste au mois de novembre. Il avait donné une longue liste de cas possibles qui pourraient frapper la Terre, puis il recommandait que les terriens partent avant 1000 ans.
Ah,
donc,
oui.
C'était ça, et on pensait que lui, il avait peut-être trouvé quelque chose dans le ciel qui le poussait à nous dire, ben, il faudrait se griller puis partir sur une autre planète d'ici 1000 ans. Maintenant, c'est pas facile de trouver des planètes acceptables pour la vie, parce
ouais.
qu'il faut de l'oxygène, il faut de l'eau, il faut une bonne température. et en regardant sur les cartes du ciel, ben, on s'aperçoit que si on s'approche trop du centre de notre galaxie, on va faire affaire à une plus grande densité de matière noire. On va faire affaire à plus d'étoiles, on va être plus tassé et il va y avoir plus d'explosions d'étoiles en supernova. Par contre, si on s'en va très loin du centre de notre galaxie, on est plus sujet aux marées des galaxies proches qui pourraient nous prendre les bouts des bras de notre galaxie et les amener avec eux autres dans l'espace intergalactique. Et on risque de perdre notre soleil en se faisant. Donc, si on veut vraiment changer...
Et il n'est pas dit qu'on serait davantage à l'abri des supernovas et des astéroïdes sur une autre planète.
Exactement. Alors, moi, si on me demandait quelle serait la meilleure place, je dirais n'importe où sous l'orbite circulaire du Soleil autour du centre de notre galaxie. Alors, donc, qu'on reste à peu près à la même distance du centre de la galaxie qui pourrait... On en a besoin de ce centre-là.
Maintenant, bon, est-ce que c'est pas un peu farfelu parce que l'humanité n'a pas les moyens de transport pour justement faire un exode de ce genre?
Bien, je peux-tu m'inscrire en faux à ce que tu viens de dire? Parce que il y a 200 ans, qu'est-ce qu'il y avait à Victoria, dans le Grand Victoria, il y a 200 ans?
Victoria, tu vois que
Donc, dans un autre 200 ans, on pourrait très bien avoir développé des nouvelles technologies qui nous permettraient d'aller dans des fusées ou des soucoupes volantes dans l'espace.
Et transporter des milliards d'individus.
Mettons dans 400 ans d'abord.
D'accord.
OK, mais là, le problème, c'est que ce mois-ci, le 3 mai, il a sorti une conférence de presse comme quoi qu'il avait changé d'idée.
Ah.
Au lieu d'être 1000 ans, il nous donne juste 100 ans. Fait que là, ça, le monde scientifique a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive à Stephen Hawking? Par exemple, au niveau des supernovas, des étoiles qui explosent, il n'y en avait pas plus il y a 6 mois que présentement. Au niveau des astéroïdes, il n'y en a pas plus il y a 6 mois que présentement. Donc, c'est pas une raison astronomique. Ça veut dire que lui, Stephen Hawking, peut-être qu'il parle un peu à travers de son chapeau parce que ce qu'il raconte, c'est des choses comme la possibilité que l'intelligence artificielle sur Terre va se débarrasser des humains, la possibilité que des microbes antibactériologiques vont pouvoir se débarrasser des humains. Alors, lui,
il s'inquiète d'un élément endogène, non exogène, le rôle de l'humanité, par exemple. Peut-être que...
Exactement.
Oui.
Exactement. Sauf que c'est pas un philosophe, c'est pas quelqu'un qui est versé dans les microbes. Alors donc, il est en dehors de son domaine. C'est comme si tu me disais que le pape François vient de prédire la victoire d'un tel groupe de joueurs de basketball ou de... Bon, alors donc, moi, je donnerais pas, je le croirais pas, quoi. J'ai le droit de pas le croire parce qu'il est pas versé, il est pas professionnel dans cette affaire-là. Il est sorti de son domaine.
Et en plus, ça contredit ce qu'il a dit il y a quelques mois à peine.
Oui, parce que là, il ne nous donne plus de raisons astronomiques. Il n'y a pas rien au niveau de l'astronomie. Je suis un astronome. Je sais qu'il n'y a pas rien qui a sorti de nouveau depuis 6 mois au niveau du nombre de supernovas et au niveau du nombre d'astéroïdes. Là.
Alors, c'est le comportement de l'humanité qui l'inquiète.
Oui. Et comme il devient âgé, on peut se poser la question si il est devenu peureux.
D'accord. Et auparavant, avait-il versé dans ce genre de prédictions et de spéculations, d'anticipations?
À ma connaissance, non. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Alors donc, il devient un peu comme Hibernive. Il commence à avoir peur plus il prend du temps en âge.
Et pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément cette personnalité du monde scientifique, qu'est-ce qui l'a rendu célèbre? Pourquoi est-il si connu et connu quand même relativement bien du grand public?
Oui, parce qu'il a écrit quelques livres, dont un qui est devenu un best-seller et qui était assez épais, que beaucoup de gens du public ont acheté. Donc, il a essayé d'expliquer sa spécialité de cosmologiste et a essayé d'expliquer ça au grand public. Et ça, c'est une des choses. L'autre, c'est que c'est quelqu'un qui a de la misère à parler, donc il parle avec un ordinateur. OK? Donc, toute sa vie, ce monsieur-là a été atteint d'une maladie congénitale et il a réussi quand même à se battre pour continuer à vivre et à continuer à faire de la recherche en astronomie.
Et si vous aviez un courriel à lui envoyer, là, entre scientifiques, vous lui diriez quoi à propos de ses derniers commentaires, ses dernières observations?
Bien, d'abord, ce serait... Je parlerai pas en tant que scientifique parce que, comme je t'ai dit, il y a rien qui a changé depuis 6 mois, donc oui. Pas de preuves scientifiques. Je lui dirais qu'en tant qu'humain, je respecte son opinion, mais que je pense que il est un peu alarmiste.
Et vous recommanderiez quelle lecture aux auditeurs qui nous écoutent et à ceux finalement qui veulent savoir quels sont les risques que court l'humanité actuellement, les risques exogènes, ceux qui viennent de l'espace, quel ouvrage peut-on lire pour apprécier justement à la bonne échelle les risques auxquels fait face la planète, les risques de l'espace?
Oui, ben moi, j'irai pas voir Hawkins pour le grand public. Pour les risques en astronomie, j'irai voir sur Wikipédia.
Oui.
Alors, Wikipédia a des trucs de base sur l'astronomie, sur les risques, les astéroïdes, les objets qu'ils appellent Near Earth Asteroids, les astéroïdes proches de la Terre qui, à un moment ou à un autre, s'en rapprochent énormément ou pourraient même être happés par la Terre. Mais donc, je recommande Wikipédia sur le web.
Vous, ça ne vous inquiète pas, les supernovas, les astéroïdes?
Je m'inquiète quand je prends mon auto Toyota pour traverser une rue. Mais c'est un bon niveau d'inquiétude.
Oui.
Et c'est la même chose pour ce que vient de dire Stephen Hawking au sujet qu'il faut partir. Là, je suis d'accord qu'il faut partir, mais parce qu'on a une tendance à polluer beaucoup la planète Terre et ne pas dépolluer.
Oui. Alors, justement, ça, c'est un beau débat. Faut-il partir ou plutôt réformer à temps notre utilisation des ressources, notre façon de produire de l'énergie, etc.? Est-ce qu'il est vraiment trop tard? Est-ce qu'il faut fuir comme on fuit un immeuble en feu? Ou alors, est-ce qu'il est encore temps d'arrêter et de se réformer, finalement?
Alors donc, il faudrait aller voir des politiciens pour répondre à ça et non pas à moi. Alors, moi, je regarde, je vois que les hommes polluent tranquillement, mais
oui.
Et qu'ils ne dépolluent pas. Et si je peux faire une projection que dans 1000 ans, ça va être vraiment pollué sur Terre, à moins qu'on trouve un moyen de mettre l'intelligence artificielle pour aller dépolluer.
Oui, peut-être que le salut repose dans l'intelligence artificielle. Ça donne un peu le frisson de dire ça. Un autre mot en terminant, un dernier mot à propos de Stephen Hawking et ses déclarations peut-être saugrenues, en tout cas étonnantes.
Alors moi je dis, ne vous en faites pas trop, il parle d'événements ou d'effets qui sont en dehors de du domaine où il a reçu une grosse compétence, où il a étudié beaucoup.
Bon, d'accord. Alors, allez-y.
J'aimerais aussi parler de l'observatoire ici où je travaille. Je voudrais dire que le grand public est invité les samedis soirs et c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire. Alors, c'est fait par la Société royale d'astronomie du Canada du centre de Victoria et c'est à l'observatoire sur le chemin West Saanich Road. Là.
Oui.
Et tous les samedis soirs du mois de mai et du mois de juin, tous les samedis soirs du mois de septembre, excepté le 1er juillet, tous les samedis soirs du mois d'août, il va y avoir une ouverture pour, je pense, c'est jusqu'à 200 personnes qui vont pouvoir aller voir à travers les télescopes que nous avons et assister à des spectacles ou des conférences pour le grand public là-dessus.
Et c'est gratuit, disiez-vous.
Et c'est gratuit. Il faut juste s'enregistrer. Si vous allez sur le site web Eventbrite, puis Free Star Parties à the DAO Tickets, vous allez pouvoir vous enregistrer et avec votre ticket gratuit, vous allez pouvoir monter la côte. Il y a des gens, des commissaires qui vont être en bas là, pour vérifier votre ticket, pour s'assurer qu'on peut juste faire monter un nombre suffisant et après quoi on faut arrêter parce qu'il n'y a pas d'autre sortie. Hein, fait que,
oui.
Il faut éviter qu'on ait des
embouteillages. Peut-on citer l'adresse Internet du site de l'Observatoire?
On peut, et de là viser, on peut citer l'adresse de aller sur l'Internet et taper Friends of the Dominion Astrophysical Observatory, alors FDAO, et aussi, si vous voulez, la Société royale d'astronomie du Canada, Centre de Victoria. C'est parce que c'est fait par eux autres. Là. Nous, on prête les équipements, on prête le terrain, on charge rien, mais on paye quand même pour les commissionnaires.
Dites-moi, est-ce que la pollution lumineuse urbaine des environs vous cause des ennuis?
La réponse à ta question, de plus en plus à chaque année. On peut encore voir les étoiles brillantes à travers nos télescopes.
Bon, est-ce que vous allez lancer un appel aux conseillers municipaux des différentes municipalités, agglomérations régionales pour qu'ils votent des lois municipales là-dessus?
Bon, ça fait des années qu'on fait ça et on a un succès mitigé, c'est-à-dire que tout proche à l'intérieur d'un rayon de 5 ou 10 kilomètres de l'observatoire, il y a des mesures en place pour que toutes les lumières de la rue aient un écran par-dessus pour refléter ça au sol et non pas pour que ça rentre partout, que ça aille dans la lentille de l'observatoire. Et à chaque année, on fait des petites pressions comme ça, mais on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas empêcher les pleins de gens à la retraite qui s'en viennent décider de venir vivre à Victoria. Là. On c'est comme une mer qui monte tranquillement, une mer de lumière qui monte tranquillement.
Bon.
Et à part d'acheter toute la ville de Victoria et demander aux gens de déménager pour ne pas faire grand-chose.
D'accord.
Alors,
on a encore de belles heures d'observation stellaires devant soi.
Oui, mais dans 100 ans, je ne vous garantis pas rien. Là.
Non, bien sûr, mais c'est ça c'est l'horizon de Stephen Hawking.
Oui.
D'accord, alors c'est bien noté. Un grand merci, Jacques Vallée, pour ce commentaire éditorial sur les récentes sorties de Stephen Hawking. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'un des pionniers de la radio CILS FM 107,9 qui fête ses 10 ans cette année et que vous êtes, bien sûr, astrophysicien. Au plaisir de se reparler prochainement à propos de l'Observatoire et d'autres sujets scientifiques.
Au revoir, Alexis.
À très bientôt. Merci. C'est sur cette interview de Jacques Vallée qu'on remercie chaleureusement que se referme cette édition du débrief pour les 31 mai et 1er juin. Merci de l'avoir suivi. Merci de syntoniser votre fréquence communautaire francophone locale. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Bonjour, ici Charlotte du groupe Parlement Jeunesse de la Grande Bretagne. Vous êtes à l'écoute de CILS-FM, la seule radio communautaire francophone du Côte-Ouest des Rochers.
Parole d'aîné est en ondes le samedi matin entre 9 et 10 heures et en rediffusion le lundi à 17 heures et le jeudi à 13 heures.
Bonjour, ici les Tireux de Roche.
Directement de Victoria.
Et vous écoutez la seule et unique radio francophone communautaire de la Colombie-Britannique, CILS 107,9 FM Radio Victoria.
L'Odyssée du rythme. Une émission préparée et présentée par Philippe Godefroy. À la technique, Nicolas Fiche. L'Odyssée du rythme va vous transporter vers des horizons de couleurs musicales différentes à travers le temps par ses notes enjouées et vous fera connaître et reconnaître des mélodies avec son histoire et ses anecdotes, qu'elles soient musicales, vocales ou instrumentales, pour lesquelles elles ont su donner ses lettres de noblesse. Bon voyage!
L'Odyssée du rythme vous emmène dans l'ère du ragtime.